Et voilà maintenant ce que l'on a raconté à la suite du rapport Tuber. La mission Tuber, le 19 mai, à la demande du ministre de l'Intérieur Texier, de Gaulle a nommé le général de gendarmerie Tuber, résistant, membre depuis 1943 du comité central provisoire de la Ligue des droits de l'homme, avec René Cassin, Pierre Cotte, Félix Gouin, Henri Laugier. Le général de Gaulle a donc nommé Tuber membre de l'Assemblée consultative provisoire dans le but d'arrêter la répression en Algérie. En effet, à partir du 19 mai, les ordres du général Duval changèrent complètement de nature et la milice de Guelma fut dissoute. Mais pendant 6 jours, du 19 au 25 mai, la commission fit du surplace à Alger. Officiellement, on attendait l'un de ses membres retenu à Tlemcen. En fait, c'est bien Tuber qui était retenu à Alger. On ne le laissa partir pour Sétif que le 25 mai, quand tout était terminé. Et à peine arrivé à Sétif, on le rappelle à Alger le lendemain, le 26, sur ordre du gouvernement par le gouverneur général Châtaignaud. C'est bien qu'il n'a pas pu se rendre à Guelma. De retour à Alger, Tuber ne fut pas reçu par Châtaignaud, mais par Gazagne. Circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi le général Tuber n'a pas pu aller à Guelma? Alors, non seulement parce que le général de Gaulle voulait absolument sauver un représentant de la résistance en Algérie, à Chiari, l'un des organisateurs de la milice européenne, mais aussi parce qu'à Guelma, la répression menée par cette milice officiellement dissoute continuait toujours dans les faits. Elle continua jusqu'au 25 juin, jour où le ministre de l'Intérieur, Tixier, arriva à Guelma. Il y a encore eu 4 morts ce jour-là. Quand il est reparti, les meurtres ont cessé. En somme, on a promené Tuber. Et la nomination de la commission Tuber fut une menace que le gouvernement provisoire a agitée pour faire cesser la répression. Tuber a tenu à remettre un rapport sur la base des quelques faits qui lui ont été rapportés, expliquant les intentions qui auraient présidé à sa mission et exprimant quelques hypothèses. Son rapport est celui d'un honnête homme, au fait des réalités algériennes. Il sait bien qu'il a servi d'épouvantail. Mais il tient à prendre sa mission au sérieux en attirant notamment l'attention sur les causes profondes de cette crise et le caractère aveugle de la répression. Le rapport, bien entendu, fut oublié. Il ne fut pas diffusé non plus. De toute façon, après la révolte de Madagascar, dont on parlera, et une fois la guerre d'Indochine commencée, l'épisode du 8 mai 45 dans la région de Constantine n'intéressait plus personne. Tuber fut nommé maire d'Alger peu après et Gazagne a été élu à ce poste en 1948. Maintenant, quelques brefs souvenirs de personnalités qui ont traversé tout ça. Wari Boumediene a écrit « Ce jour-là, j'ai vieilli prématurément. L'adolescent que j'étais est devenu un homme. Ce jour-là, le monde a basculé. Même les ancêtres ont bougé sous terre. Et les enfants ont compris qu'il faudrait se battre, les armes à la main, pour devenir des hommes libres. Personne ne peut oublier ce jour-là. » Et puis bien sûr, Kateb Yassine, écrivain et grandissime poète algérien, qui était alors lycéen à Sétif. C'est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J'avais 20 ans. Le choc que je ressentis devant l'impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs dizaines de milliers de musulmans, je ne l'ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. Il fut aussi un témoin oculaire des événements de Sétif et écrit « Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n'avaient pas prévu de réaction. Cela s'est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire. On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle. C'était un grand massacre. » Et Albert Camus, dans son journal Combat, des 13 au 23 mai, demande qu'on applique aux Algériens les principes démocratiques que nous réclamons pour nous-mêmes. Il affirme qu'il y a crise et non de simples incidents, et que le peuple arabe existe, qu'il n'est pas inférieur sinon par les conditions où il se trouve et qu'on lui a faites.
Vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 à Contre-Histoire. Alors, après le piano baladeur de Marc Vella et le divin Doudouk, et après ces fortes paroles d'au-delà de la Méditerranée, nous allons continuer notre immersion dans les diplos d'Ocus, enfin les diplos d'Ocu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous allons voir un peu l'évolution de la conscience politique au sujet du 8 mai de Sétif. Alors, figurez-vous que le 19 avril 2015, Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendu à Sétif pour commémorer avant l'heure le 70e anniversaire des massacres du 8 mai 45. Oui. Pour la première fois, devait-il déclarer, à la parole viendra s'ajouter le geste. Traduction concrète de l'hommage de la France aux victimes et de la reconnaissance des souffrances infligées. Eh bien, voyez, ça finit par bouger quand même. Et, toujours dans le même diplo docu, nous avons un témoignage de Salah Gemrich, essayiste et romancier algérien, qui revient sur les massacres du 8 mai 45 et témoigne. Pour l'enfant de Guelma que je suis, le traitement de ses souffrances par la presse de l'époque ne s'explique pas par la seule raison d'État. Je me souviens, c'était peu après le cessez-le-feu, le lendemain de la disparition de Jean Amrouche le 16 avril 1962. On reparlera de Jean Amrouche. Je fis une découverte qui, longtemps, sera pour quelque chose dans ma suspicion irraisonnée à l'égard de la presse française. Oui, alors ça peut surprendre, mais ce matin, 7 mai 2016, j'ai entendu à la radio, sur France Culture, que la presse française était la 43e, enfin la liberté de la presse française était située comme la 43e dans l'échelle de la liberté mondiale de la presse par le réseau des Reporters sans frontières. Voilà, on est 43e, hein? Bon, eh bien, vive Canal Sud, le canard enchaîné et le diplôme. Bon, c'était donc à Guelma, dans le 93 de l'époque, que fut le département français de Constantine. Alors que j'aidais au rangement d'un local associatif jouxtant le domicile familial et connu pour avoir abrité des réunions clandestines des premiers chefs nationalistes, je tombais sur une pile de journaux. Le Monde, l'Aurore, la Croix, le Parisien libéré, l'Humanité, Libération. Alors évidemment, en 1945, c'était Libération de la Libération, hein, et pas celui de Jean-Paul Sartre, qui est rené en 73. Et témoignage chrétien, que je ramenais secrètement chez moi, avait le sentiment d'avoir mis la main sur un trésor de guerre. Dès ma première consultation de ces pages défraîchies, mon regard fut accroché par la une d'un numéro du Monde daté du 18 mai 1945, sous le titre « Malaise français ». Un article traitant de la répression qui s'était abattue sur Guelma, Sétif et Herata. Le texte se terminait par un « à suivre » qui mystérieusement restera sans suite. En marge de l'article, une main anonyme avait griffonné une phrase attribuée à Albert Camus. Une phrase choc que je ne résistais pas à consigner dans mon cahier de texte de collégien. Les journalistes français doivent se persuader qu'on ne réglera pas un si grave problème par des appels inconsidérés à une répression aveugle. Pour les médias d'alors, Il ne faisait aucun doute qu'à l'origine de ces émeutes, il y avait la sécheresse et la famine. Aucun journal n'eut l'idée de mener sa propre enquête. C'est ainsi que l'opinion publique accueillit sans état d'âme la version gouvernementale du complot anti-républicain. Une thèse qui faisait fi des faits établis, même partiellement, par le rapport du général Tuber, qui n'a plus de secret pour vous, je pense. La mission du même nom, rappelée trop tôt à Paris par le général de Gaulle, n'aura pas l'occasion d'entendre Marcel Régy, auteur d'une scrupuleuse enquête menée à chaud sur la répression aveugle qui emporta, avec des milliers de Guelmois, sa sœur et deux de ses frères. Vous pouvez lire ça sur Les massacres de Guelma, édition de La Découverte, c'est paru en 2006. En 2006, où un officier de l'armée française que j'ai rencontré en expo m'a tout raconté sur cet IF, où il était le 8 mai 45. Et ça, c'est un des souvenirs les plus bouleversants, les plus effarants de toute ma vie militante. Mahmoud Marcel Régy, né en 1905 à Guelma, était un Français d'origine musulmane, converti au catholicisme. Ancien prof de lettres à Tunis, ami de la revue Esprit, il fut un proche de Jean Amrouche à qui il confiera son manuscrit sur la furie des milices coloniales. L'homme était peu suspect de nationalisme et croyait sincèrement aux vertus de l'assimilation, avant de rejoindre le PSU. « Si ma famille a failli être anéantie, écrit-il, c'est parce qu'elle représentait une des bonnes et heureuses réussites de la véritable colonisation. » La vérité qu'il allait découvrir le fera déchanter. Les événements de Guelma ont signé la mort de l'assimilation, dont nous sommes un dernier témoignage, et ont signifié à la colonisation qu'elle était déchue de toute autorité morale pour se maintenir autrement que par la force. Son enquête, d'une minutie impressionnante, restera durant 60 ans au fond d'un tiroir avant d'être exhumée en 2006 par Pierre Amrouche, le fils de Jean. L'enquête confirme qu'à l'origine des massacres fut cette marche pacifique qui se déroula le jour même des célébrations de la victoire sur le nazisme. Il était 18 heures quand le cortège s'ébranla. Partis de la ville haute, les manifestants se dirigeaient vers le monument aux morts pour y déposer plusieurs gerbes de fleurs. Ils arboraient les drapeaux des Alliés, de la France, de l'Algérie autonome, et des pancartes. Vive la démocratie, vive l'Algérie, libérez Messali, vive la charte de l'Atlantique, que vous connaissez bien, abat le colonialisme. C'est cette manifestation qui sera réprimée dans le sang par les milices d'ordre et les hommes du sous-préfet Hatchari, un ancien SFIO, passé RPF avant de faire partie des créateurs de l'OAS. Ces slogans n'apparaîtront dans aucun compte-rendu de presse et seront ignorés par la classe politique, à gauche comme à droite. On insistera plutôt sur la présence d'agitateurs arabes, Libération 12 mai, de milices vichysoises, L'Humanité 16 mai, alors que le Parisien libéré du 17 mai entre un article de Vercors, après la victoire, le combat contre soi-même, et un entrefilet « Hitler n'est pas mort », pense Churchill, stigmatisera l'appui d'éléments anti-républicains et de certaines influences étrangères. Le 15 mai, sous le titre « Les troubles d'Algérie », La Croix évoque des difficultés de ravitaillement chez les tribus berbères, frustes et misérables. Le même article, non signé, et sans référence, ni d'agence, ni de correspondance particulière, se retrouvera le soir même dans Le Monde, sous le titre « Les émeutes sanglantes de Sétif ». Avec un curieux changement d'adjectif, les tribus frustes et misérables de la Croix deviendront, dans le journal de Boeuf-Méry, des tribus incultes et misérables. S'agissait-il d'une dépêche du service de presse gouvernemental ou d'une pige doublonnée? La question posée aux deux rédactions en avril 1995 restera sans réponse. Le malaise français qui fit la une du Monde le 18 mai était annoncé dès le 12 mai par Libération. Un malaise qui n'a cessé de se développer depuis plusieurs mois. Il durera en fait plusieurs décennies, des décennies de chape de plomb. Ce n'est qu'à partir des années 1990, autrement dit, à partir de cette guerre civile, que journalistes et intellectuels parisiens se sont empressés de baptiser, comme à dessein, la seconde guerre d'Algérie, que les médias français commenceront à s'intéresser à la question. En 1995, le cinquantenaire de cet événement à double connotation, avec battage médiatique concurrentiel des deux côtés de la Méditerranée, força des journalistes à sortir de leur discrétion. Et c'est ainsi que les médias ouvrirent le dossier, appelant à la rescousse historiens et universitaires en charge de pages obscures de l'histoire de la France coloniale. Le souvenir de ces massacres, qui selon les sources firent entre 10 000 et 25 000 victimes, 45 000 selon la thèse du FLN généralement admise aujourd'hui, et 45 000 c'est bien le chiffre que m'avait indiqué cet officier en 2006. Le souvenir de ces massacres avait certes de quoi troubler durablement les consciences. Pour la simple raison que notre 8 mai 45 a le tort d'avoir eu lieu un 8 mai 45, le jour même où la France et les Alliés fêtaient leur victoire sur la barbarie nazie. Or, que nous disent les témoins de Marcel Régui ? Que du soir au matin, à l'annonce de la visite du ministre de l'Intérieur Adrien Tixier, on empilait dans le four à chaud, le four crématoire des Minoteries La Vie à Héliopolis près de Guelma, on empilait les corps des fusillés. Pendant 10 jours, on brûla sans discontinuer. L'odeur à la ronde était insupportable. Il suffit d'interroger les habitants de l'endroit. C'est pour cette raison que nous n'avons jamais pu retrouver les corps de ma sœur et de mon frère cadet. Marcel Régui est décédé en 1996 et se voyait comme le dernier témoin de l'assimilation. Au moins n'aura-t-il pas eu à souffrir de la loi du 23 février 2005 et du rôle positif de la colonisation qu'elle affirmait. Lui pour qui l'autre 8 mai 45 avait définitivement déchu la France coloniale de toute autorité morale. Et un des seuls bons souvenirs que me laissera Chirac, c'est qu'il a aboli cette loi inique.
Thank you.
je ne sais plus si j'ai évoqué tout à l'heure les mots de l'ambassadeur de France à Alger en 2005. Alors je vais vous lire des extraits assez larges du discours que cet ambassadeur a prononcé à l'ouverture de l'université de Sétif le 27 février 2005. Donc, Hubert Collin de Verdière, ambassadeur de France en Algérie, à l'issue de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l'université de Clermont-Ferrand et l'université Ferhat Abbas de Sétif. Monsieur le Vali, monsieur le recteur, monsieur le président, je salue ici, dans cet amphithéâtre de l'université Ferhat Abbas de Sétif, la mémoire d'un homme d'État qui incarnait avec une grande dignité la rigueur intellectuelle et si nécessaire dans notre monde compliqué, ainsi que l'exigence de justice et de liberté de son peuple. Il était né et a longtemps vécu à Sétif. Aussi me dois-je d'évoquer également une tragédie qui a particulièrement endeuillé votre région. Je veux parler des massacres du 8 mai 1945. Une tragédie inexcusable. Fallait-il, hélas, qu'il y ait, sur cette terre, un abîme d'incompréhension entre les communautés pour que se produise cet enchaînement d'un climat de peur, de manifestation et de leur répression, d'assassinats et de massacres. Le 8 mai 1945 devait être l'occasion de célébrer l'issue tant attendue d'une guerre mondiale pendant laquelle tant des vôtres avaient donné leur vie pour notre liberté, cette liberté qui devait être celle de tous les Algériens. Ce fut hélas un drame. Celui-ci a marqué profondément, nous le savons bien, les Algériens, qui, dès cette époque, rêvaient de liberté. Ferhat Abbas était de cela. Le jeune Kateb Yassine en était aussi. Cela conduit à m'interroger sur la manière dont se construisent les mémoires dans nos pays et entre nos pays. Des mémoires longtemps à vif, cicatrices exacerbées par trop d'années de guerre, reposant notamment sur des récits personnels, récits d'identité, récits de souffrance, récits d'exil. On parle souvent, entre la France et l'Algérie, d'une mémoire commune, liée à 1000 faits quotidiens, tissés entre les communautés musulmanes, juives et chrétiennes pendant la période coloniale. Mémoire commune, certes, de voisinage et parfois d'œuvres collectives, mais aussi mémoire non commune, chargée de ressentiment, d'incompréhension, d'hostilité. Il n'y a jamais unicité des mémoires, ni d'explication catégorique ou définitive des grands événements historiques, comme il ne peut y avoir concurrence des victimes, ni négation des malheurs, quel que soit ceci. Les jeunes générations d'Algérie et de France, la vôtre en l'occurrence, n'ont aucune responsabilité dans les affrontements que nous avons connus. Cela ne doit pas conduire à l'oubli ou à la négation de l'histoire. Mieux vaut se charger lucidement du poids, des bruits et des fureurs, des violences, des événements et des acteurs de cette histoire, en évitant si possible les certitudes mal étayées, voire les jugements réciproques. Cette charge est lourde et le travail à mener considérable. C'est là, me semble-t-il, que se situe notre et votre responsabilité. Celle qui s'appuie sur les exigences du savoir pour tenter d'ouvrir avec méthode les chantiers d'un travail historique, comme le font déjà certaines ou certains d'entre vous. Et cela, comme l'a écrit l'historien Benjamin Stora, pour forger des valeurs d'égalité sur les ruines du mépris et de la haine. Certains pensent qu'il faut oublier le passé pour qu'il n'enterre pas le présent. Je ne partage pas cet avis, même si nous ne devons pas non plus nous enfermer dans l'histoire. C'est la connaissance lucide du passé et des mémoires diverses, complétée par la vision d'un avenir différent, qui conduit à la tolérance, à la construction de l'espace démocratique et aux valeurs universelles. Dans l'un de ses écrits, le philosophe Paul Ricoeur se disait troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs. Et Paul Ricoeur de s'interroger sur le concept de juste mémoire qu'il envisageait dans sa triple dimension de souci d'autrui, de sens de la dette et de respect dû aux victimes. Monsieur le Wali, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président, cette assemblée d'étudiants et d'enseignants de l'Université de Sétif m'imposait d'exprimer du fond du cœur les réflexions que l'on peut retenir ici de l'histoire et les fortes convictions que les Français en tirent aujourd'hui sur la nécessité d'un rapprochement sincère avec l'Algérie. C'est tout le sens des efforts engagés depuis l'an 2000 au plus haut niveau des deux États qui doivent conduire à une coopération rénovée, à un partenariat d'exception, à l'amitié des Algériens et des Français. Dans le domaine qui est le vôtre, la formation des élites de ce pays, nous sommes résolus à joindre nos efforts à ceux que vous déployez et nous nous enrichirons mutuellement de ce que nous ferons ensemble. Voilà, et pour finir sur une note plus légère, mais pas que, on va écouter l'enregistrement qu'a fait notre ami Arthur Coriolan pendant une manif, la manif du 31 mars, et il a appelé ça « Pastis avec la police ». À la semaine prochaine.
On a dit qu'on est des jeunes rêveurs et que quand on sera rentré dans le monde du travail, on arrêtera de gueuler. Et comme ça, c'est tout le temps comme ça, il y a toujours des jeunes qui se rebellent. Ça vous fait pas rêver ce qui s'est passé en Italie?
En Italie, c'était mort!
En Espagne, ça s'est pas passé!
En Espagne, ils ont fait une vie de bouclier! Posez leur pièce!
Et qu'en fait, vous êtes la fer de lance de l'État. Si vous êtes dans notre monde en base, quand nous vous rentrez chez vous le soir, vous subissez les mêmes lois, vous subissez la même domination de la part des élites. C'est vraiment ça. Vous faites la bouffe de merde, vos gosses ils vont dans des trieuses, ensuite avoir un tas,
je ne sais pas quoi.
C'est exactement la même. On est tous ensemble. Nous aussi vous protestez contre vos conditions de travail. Que nous aussi on proteste contre ça. Pourquoi pas protester ensemble? Pourquoi mettre une barrière à un métier? Et c'est ça la question. Là, il y a des chômeurs, des étudiants, des... On s'en fout du métier. C'est juste qu'il faut être ensemble. Parce que nos intérêts sont vos intérêts. Vous êtes des gardiens de la paix. Quand vous vous êtes engagés, vous avez signé un code du soldat avec la population. Et c'est pas de défendre un intérêt économique. Vous avez signé pour des valeurs et pas pour de l'argent. Et vous y croyez à ces valeurs, je suis persuadé qu'il y en a qui y croient toujours.
Un peu plus dynamique, mais sans flic.
Et moins répressif.
C'était donc Pastis avec la police. Et vous pourrez retrouver tout ça tout à l'heure sur soundcloud.com/chronicard et même dans la semaine sur le site de Canal. Mais oui. À bientôt.
Jada.